Voltaire, dictionnaire philosophique, article Amazon. On a vu souvent des femmes vigoureuses et hardies combattre comme des hommes. L'histoire en fait mention, car sans compter une Sémiramis, une Thomiris, une Pensétilée, qui sont peut-être fabuleuses, il est certain qu'il y avait beaucoup de femmes dans les armées des premiers califes. C'était surtout dans la tribu des Homénites, une espèce de loi dictée par l'amour et par le courage, que les épouses secourussent et vengeassent leurs maris et les mères leurs enfants dans les batailles. Lorsque le célèbre capitaine Déra combattit en Syrie contre les généraux de l'empereur Héraclius, du temps du calife Aboulker, successeur de Mahomet, Pierre, qui commandait dans Damas, avait pris dans ses courses plusieurs musulmanes avec quelques butins. Il les conduisit à Damas. Parmi ses captives était la sœur de Déia lui-même. L'histoire arabe d'Avadelki, traduite par Crellet, dit qu'elle était parfaitement belle et que Pierre en devint épris. Il ménageait dans la route et épargnait trop longue traite à ses prisonnières. Elle campait dans une vaste plaine sous des tentes gardées par des troupes de peu éloignées. Colan était le nom de cette sœur de Déra, proposa une de ses compagnes, nommée Océara, de se soustraire à la captivité. Elle lui persuade de mourir plutôt que d'être les victimes de la lubricité des chrétiens. Même enthousiasme musulman saisit toutes les femmes. Elles s'arment les piquets ferrés de leurs tentes, de leurs couteaux, espèce de poignard qu'elles portent à la ceinture, et forment un cercle, comme les vaches serrent en rond, celles les unes contre les autres, et présentent leurs cornes au cou qui les attire. Tac. Pierre ne fit d'abord qu'en rire. Il avance vers ses femmes. Et il est reçu à grands coups de bâton ferré. Il balance longtemps, à user de la force, enfin, il s'y résout. Et les sabres étaient déjà tirés lorsque Déra arrive, met les Grecs en déroute et délivre sa sœur et toutes les captives. Rien ne ressemble plus à ces temps qu'on nomme héroïques, chantés par Homère. Ce sont les mêmes combats singuliers à la tête des armées. Les combattants se parlent souvent assez longtemps avant que d'en venir aux armes et aux mains. Et c'est ce qui justifie Homère, sans doute. Thomas, gouverneur de Syrie, gendre d'Héraclius, attaque sur la ville dans une sitôt sortie de Damas. Il fait d'abord une prière à Jésus-Christ. « Injuste agresseur, dit-il ensuite à ses gabiles, ne résistera pas à Jésus mon Dieu. Tu combattras pour les vengeurs de sa religion. Tu préfères un mensonge impie, lui répond Sergibal. Jésus n'est pas plus grand devant Dieu qu'Adam. Dieu l'a tiré de la poussière, il lui a donné la vie comme à un autre homme. Et après l'avoir laissé quelque temps sur terre, il a enlevé au ciel. » Après de tels discours, le combat commence. Thomas tire une flèche qui va blesser le jeune Alban, fils de Salem, à côté du vaillant Ségoville. Alban tombe et expire. La nouvelle envole à sa jeune épouse, qui était unie à lui que depuis quelques jours. Elle ne pleure point, elle ne jette point de cris, mais elle court sur le champ de bataille, le carquois sur l'épaule et deux flèches dans sa main. La première qu'elle tire, elle jette par terre le porte-étendard des chrétiens. Les Arabes s'en saisissent en criant « Allah Akbar !» De la seconde, elle perce un œil de Thomas qui se retire tout sanglant dans la ville. L'histoire arabe est pleine de ces exemples. Mais elle ne dit point que ces femmes guerrières se brûlassent le bon téton à droit pour mieux tirer de l'arc. Encore moins qu'elle vécut sans homme. Au contraire, elle s'exposait dans les combats pour leurs maris ou pour leurs amants. Et cela même doit conclure que loin de faire des reproches à Aristote et à Tasse d'avoir introduit tant d'amantes guerrières dans leurs poèmes, on doit les louer d'avoir peint des mœurs vraies et intéressantes. Il y eut en effet, du temps de la folie des croisades, des femmes chrétiennes qui partagèrent avec leurs maris les fatigues et les dangers. Cet enthousiasme fut porté au point que les Génoises entreprirent de se croiser et d'aller former en Palestine des bataillons de jupes et de cornettes. Elles en firent un vœu, dont elles furent relevées par un pape plus sage qu'elles. Marguerite d'Anjou, femme de l'infortuné Henri VI, roi d'Angleterre, donna dans une guerre plus vaste juste des marques d'une valeur héroïque. Elle combattit elle-même dans 10 batailles pour délivrer son mari. L'histoire, d'un point d'exemple, avérée d'un courage plus grand ni plus constant dans une femme. Elle a été précédée par la célèbre comtesse de Montfort en Bretagne. Cette princesse, dit d'Argentré, était vertueuse, outre tout naturel de son sexe, vaillante de sa personne, autant que nul homme. Elle montait à cheval, elle maniait mieux que nul écuyer. Elle combattait à la main. Elle courait, menée par une troupe d'hommes d'armes, comme le plus vaillant capitaine. Elle combattait par mer et par terre, tout de même, en résistance, etc., etc., etc. On la voyait parcourir l'épée à la main, ses états envahis par son compétiteur, Charles de Blois. Non seulement elle soutint deux assauts sur la brèche d'Erlemont, armée de pied en cap, mais elle fondit sur le camp des ennemis, suivie de 500 hommes, y mit le feu et les réduisit en cendres. Les exploits de Jeanne d'Arc, si connus sous le nom de la Pucelle d'Orléans, sont moins étonnants que ceux de Marguerite d'Anjou et de la comtesse de Montfort. Ces deux princesses ayant été élevées dans la mollesse des cours, et Jeanne d'Arc dans la rude exercice des travaux de la campagne, était en plus singulier et plus beau de quitter sa cour que sa chaumière pour les combats. L'héroïne qui défendit Beauvais est peut-être supérieure à ce qui fit lever le siège d'Orléans. Elle combattit tout aussi bien et se vanta ni d'être pucelle ni d'être inspiré. Ce fut en 1472, quand l'armée bourguignonne assiégeant Beauvais, que Jacques Hachette, à la tête de plusieurs femmes, soutint longtemps un assaut, arracha l'étendard qu'un officier des ennemis allait arborer sur la brèche, jeta le pont-étendard dans le fossé, et donna le temps aux troupes du roi d'arriver pour courir, secourir la ville. Ses descendants ont été exemptés de la taille, faible et honteuse récompense. Les femmes et les filles des Beauvais sont plus flattées d'avoir le pas sur les hommes à la procession le jour de l'anniversaire. toute marque publique d'honneur encourage la mêle et l'exemption de la taille n'est qu'une preuve qu'on doit être assujetti à cette servitude par le malheur de la naissance. Mademoiselle de la Charité, de la Charse, de la Saison, de la Tour du Pain, du Gourmand, se mit en 1692 à la tête des communes en Dauphiné et repoussa les blancs barbelés qui faisaient une irruption. Le roi lui donna une pension comme un brave officier. L'ordre militaire de Saint-Louis n'était pas encore institué. Il n'est presque point de nation qui ne se glorifie d'avoir de pareilles héroïnes. Oh, le nombre n'en est pas grand. La nature semble avoir donné aux femmes une autre destination. On a vu, mais rarement, des femmes s'enrôler parmi les soldats. En un mot, chaque peuple a des guerrières. Mais le royaume des Amazones sur les bords du Thermodon n'est qu'une fiction poétique, comme presque tout ce que l'Antiquité raconte.